Chapitre 10. L'année 1938 s'est achevée sans que je revoie Reinhardt. Il est vrai que l'actualité s'est chargée de faire diverger nos parcours. L'annexion des Sudètes, la mine de cristal déclenchée en représailles de l'assassinat du conseiller von Rath, les ordonnances anti-juives d'Heinrich Himmler qui aboutissent à priver les Israélites de tout droit futile élémentaire, tous ces événements s'inscrivent comme autant de sujets de travail pour mon ami dont le zèle ne se dément pas. Nous échangeons nos vœux, comme il est de coutume, dans les derniers jours de décembre. Nous avons conscience d'avoir frôlé la guerre et d'en avoir repoussé les échéances un peu plus loin dans le temps. La déclaration commune de Jean Bonnet et de Joachim von Ribbentrop en début décembre, reconnaissant solennellement les frontières de l'Allemagne et de la France comme définitives, sonne comme la ratification par Berlin du traité de Versailles. C'est pour les Français un très beau succès diplomatique qui efface quelque peu les reculades de Munich. Les Italiens sont moins complaisants. Mais le comte Ciano, le propre gendre de Mussolini, proclame quelques jours plus tard, avec cette emphase toute méditerranéenne, que les accords Laval-Mussolini de 1935 sont historiquement dépassés. Du mieux que je peux, je fais prospérer mes affaires. Les périodes troublées font toujours le bonheur des banquiers, qui peuvent élever leurs taux, accroître leurs garanties et choisir parmi leurs clients. La crise mondiale est oubliée. La production industrielle a redémarré. L'agriculture française bat tous les records de production et une nouvelle société se fait jour, telle des jambes bronzées, du swing et du cinéma parlant. Les dépôts augmentent dans mes comptes et je dois acheter et aménager de nouveaux locaux, moderniser mes équipements, embaucher du personnel. De ce fait, le recrutement d'Éléonore s'est opéré tout naturellement. Il ne me revient que de bonnes choses à son sujet. Monica, qui d'entrée de jeu l'a jugée sympathique, l'invite de temps en temps chez elle et je crois c'est de là parti pour une bonne amitié. Le tableau serait des plus réjouissants si nous revenaient régulièrement les inquiétudes quant au sort du docteur Schumann. Je ne sais par quelle entremise, Éléonore a reçu une fois de ces nouvelles si alarmantes qu'il eut mieux valu qu'elle ne lui parvienne pas. Elle en reste affligée des jours durant jusqu'à ce que Monica réussisse à lui faire avouer sa mauvaise conscience, celle de jouir de conditions de vie agréables et sûres, alors qu'un vieux monsieur, humilié et seul, n'avait pas d'autre espérance que la mort. L'année 1939 vit une frénésie d'agitation diplomatique. Les traités de paix, les alliances se nouent si vite que l'on finit par ne plus savoir qui est l'ami de qui. Le houlou-houlou des chancelleries n'enregistre que les unions, pas les divorces, et à ce petit jeu, l'Union soviétique se montre inégalable. Elle est pratiquement l'allié de tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonne patte, les cours européennes signent, ratifient, et finissent par oublier avec qui, et surtout contre qui, elles se sont engagées. De ce côté, la sélection se fait naturellement. Les puissances de l'Axe, que l'Espagne franquiste rejoint, bafouent allègrement la morale internationale, le respect de leurs signatures et occupent, annexent, s'approprient. Après la Libye et l'Éthiopie, c'est l'Albanie que s'arrange du souligne. Hitler, plus méthodique, avale, bouchée après bouchée, la Tchécoslovaquie, après les Sudètes, c'est la Slovaquie qui fait scission, puis c'est la création du protectorat de Bohême-Moravie, avec, suprême attention, la nomination d'un Reich protector. C'est à peu près à ce moment-là, dans les premiers jours de printemps 1939, que je revois Reinhardt. La rencontre n'a rien de fortuit, puisqu'il s'agit du baptême de son dernier-né et que j'en suis le parrain. Pour cet événement heureux, la famille Heydrich a choisi de se ressourcer au bord de la mer Baltique, à Lütjenbrod, dans la famille de Lina, sur la terre de Servan. Bien que le déplacement fût un peu long, j'étais heureux de revoir cette famille exemplaire, tellement allemande et un peu romaine au fond. Je ne suis pas déçu. Lina est plus belle que jamais, dépassant en élégance et en distinction cette grande agitée de Lénie, que Reinhardt a pourtant la faiblesse de lui préférer parfois. Klaus et Heider sont adorables enfants, blonds aux yeux clairs, souriants et bien aisés. Quant à la petite fille que je tiens dans mes bras, elle me fixe intensément, comme s'il voulait ne plus jamais oublier mon visage. J'espérais secrètement revoir Maria, mais elle n'est pas venue. J'appris par Lina qu'elle mène à terme une grossesse difficile et qu'elle a voulu s'épargner la fatigue d'un long voyage. Les deux familles, les Heydrich et les von Osten, font apparemment bon ménage, et, libation aidant, l'ambiance devient vite celle d'une kermesse flamande, joyeuse et riche en toasts répétés, portés aux présents, aux absents, et une fois sur deux, au Reich et à son maître. Pour ne pas me faire remarquer, et bien que je déteste la grossièreté alcoolique, je me soumets à ces rites païens, et même, à deux reprises, prononce une de ces invitations à boire, dont chacun attend avec impatience le geste ultime, le verre offert aux cieux. Reinhardt est heureuse d'être ici parmi les siens. Je suis le seul invité extérieur à la famille, et je ressens hautement, c'est un signe d'honneur. Le chef de la sécurité du Reich fait de moi, en quelque sorte, son hôte d'honneur. Cela, à mes yeux, relativise nos divergences, car celles-ci subsistent. je ne me fais pas faute de les exprimer en faisant appel à l'intelligence de Reinhardt et à sa capacité de se distancier d'esprit simple ou simplement intéressé. Au cours d'une longue conversation que nous avons entre la cérémonie religieuse et le repas de fête, je lui explique combien je comprends et même j'adhère à la vision d'une Allemagne redevenue elle-même, puissante et respectée. Je ne suis pas loin non plus d'approuver la réintégration au sein du peuple allemand de ces morceaux qui l'ont été arrachés par le traité de Versailles. Les Français ont eu tort de dépecer sur l'autel de la revanche l'Allemagne des Hohenzollern et l'Autriche des Habsbourg. Je considère que le vieux Clémenceau était un homme du siècle passé pesant d'un poids terrible sur le cours des événements à venir. S'il avait été allemand, commençais-je mes propos, s'il avait été allemand, nous aurions gagné la guerre, m'interrompit Reinhardt. Il se trouve ainsi des hommes qui, à eux seuls, peuvent changer le cours de l'histoire. Malheureusement, si cet homme s'était montré opiniâtre au-delà du raisonnable, il n'a pas su surmonter ses vieilles haines envers nous et tout ce qu'il a construit doit être rasé. Exception faite de la Société des Nations, je crois que cette innovation est indispensable à la paix. Elle a réglé le problème de la Sarre, celui de la Haute-Silésie, de l'Autriche et de la Hongrie. Elle a fait avancer la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Quelle réconciliation? Nous nous détestons comme jamais. Tu te trompes, Reinhardt. Ce n'est pas la vie de Français éclairé comme Giraudoux ou d'Allemand comme Stresemann. Je t'en prie, Gottfried, laisse Stresemann là où il est, à sa place de traître. Imagine que ce gros bourgeois représentant du grand patronat, monarchiste impénitent, a rejeté le traité de Versailles en clamant que les Allemands y sont traités comme des chiens, exclus des peuples de la terre, avant de tourner Cosaque et de se laisser suborner par Briand. Stresemann, c'est la plus belle victoire de Briand. C'est vrai que dans l'explosion de colère de Reinhard Heydrich, à l'encontre du prix Nobel de la paix, c'est l'antagonisme presque parfait entre ces deux hommes. Originaire de la même région, Stresemann a étudié à l'université de Leipzig et n'ont pas mangé le même pain ni bu aux mêmes sources. L'audace de Stresemann, qui fonde sa propre usine, milite dans le corporatisme patronal, tout en adhérant au libéralisme économique, contraste avec le conservatisme du fils de Bruno Heydrich. À 24 ans, Gustav Stresemann est un personnage important, considéré, introduit dans la bonne société berlinoise. À 45, il est chancelier et en moins d'un an, il résout quelques-uns des grands problèmes de la République. L'occupation de la Ruhr, les séparatismes régionaux, l'inflation. Il est en même temps l'homme de la fermeté, face à un point carré, hargneux, entêté, et s'il parvient à s'entendre avec Aristide Briand, c'est autant grâce à son talent qu'à la sagesse du français. Je ne comprends pas la haine viscérale de Reinhardt pour un grand Allemand, celui qui réintègre son pays dans le concert des nations, signe la paix de Locarno et ose parler d'une idée européenne. Ou plutôt si, je réalise que le chancelier a réduit à néant les espérances des putschistes de la brasserie de Munich et envoyé en prison Adolf Hitler et Ludendorff. Il s'est dressé devant l'extrême droite, obstinément revanchard, et par cela a probablement évité à l'Allemagne une nouvelle confrontation désastreuse avec la France. Il ne sert finalement à rien de s'attarder sur le sujet. Reinhardt ne me convaincra pas et je ne l'amènerai pas à mes vues. Chacun restera sur ses positions. C'est moi qui romps la controverse en évoquant, je ne sais pourquoi, la situation de la feu Tchécoslovaquie. Pour la première fois depuis ma mission auprès de Benesch, si brillamment couronnée de succès, j'évoquons ce voyage. Pour la première fois également, le patron du SD m'en remercie personnellement et vivement. Je me retiens de lui dire que j'essaye d'attendre, mais le moment serait inopportun de mesurer les limites de sa susceptibilité, d'autant plus qu'il rebondit avec fougue sur le sujet de la plus brûlante actualité, celui que je viens d'évoquer. Très vite, je découvre chez mon ami la passion qu'il éprouve pour ce pays, pour lui artificiel et pour moi fondamental aux équilibres de l'Europe centrale. Ses connaissances sont essentiellement théoriques mais solides. Reinhardt a potassé le sujet. Géographie, histoire, politique, économie, culture. Rien n'a échappé à cette passion soudaine. Je l'écoute, m'y intéresser, m'y amuser, me réciter sa leçon et se réjouir hautement de l'éclatement de ce malheureux pays. Décidément, l'Allemagne est devenue un voisin des plus encombrants. Une évidence me traverse alors l'esprit. Reinhard Heydrich retrouve le comportement, sinon la motivation, des chevaliers de l'ordre teutonique qui ont tant déroyé pour la cause germanique. Cette cause dont Hitler s'efforce de ranimer le feu sacré. Pourtant, Reinhardt a la stature d'un Heinrich Walpott ou d'un Hermann von Salza, ses grands maîtres bâtisseurs de Königsberg et de Marienburg. Je l'imagine en cavalier noir et brandissant l'épée contre ces êtres inférieurs que sont les Slaves et assujettissant ces barbares d'un autre âge. Hitler vient de choisir pour administrer la Bohème-Moravie un Reich protecteur, le baron von Neurath. Est-ce pour apaiser la colère des Pragois qui leur envoie un de ses représentants de la noblesse prussienne qui tiennent leur rang et maintiennent en toutes circonstances la rectitude de leurs agissements? Je ne le sais pas vraiment, mais je lis le désappointement de Reinhardt qui se serait aisément imaginé dans ce rôle. Pour les beaux yeux de Lina, ceux de quelques autres jolies femmes, la considération de ses pères, et surtout par amour propre. Cela me semble si évident que je lui pose la question ouvertement. Il me répond avec la même franchise que le sujet a été débattu entre Hitler, Hess, Himmler et lui-même, les quatre H en quelque sorte. J'apprécie, me dit-il, que le Führer ait entendu que je sois associé à cette réflexion commune. Il a d'ailleurs introduit le débat en soulignant combien il pensait qu'à la Tchécoslovaquie soumise, il fallait un maître, rigoureux et juste, un de ses collaborateurs les plus fidèles. Himmler est alors intervenu pour avancer mon nom et il l'a fait avec tant de chaleur qu'Hitler s'était écrié. Heinrich, on dirait que vous voulez vous débarrasser d'Heinrich. Ce qui a poussé le Reichsführer à battre en retraite et à conclure son propos en conseillant à son chef de me garder auprès de lui dans l'hypothèse d'un conflit avec la France qui mobiliserait toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les abnégations. Ce fut alors le tour de Rudolf Hess qui était demeuré silencieux avec ce drôle de regard au fond de ses orbites. Une voix sourde, comme pour forcer l'attention de ses auditeurs, et s'y mit expliquer pourquoi il désapprouverait ma nomination à Prague. Certes, le dauphin désigné du Führer connaissait mon sens de l'organisation, indispensable à la tête d'un protectorat, mon dévouement au Führer, mon ardeur au travail, mais il était tracassé par des révélations que lui aurait faites à mon sujet un astrologue de ses amis. C'est alors que surgit dans ma mémoire le bonhomme Honorius et sa dernière apparition sous mon toit, sa confession et sa nouvelle allégeance à Rudolf Hess qui lui accorderait en échange l'impunité et l'invulnérabilité. Or, Heinrich ne prise guère, c'est le moins que l'on puisse dire, les intrigues de cet étrange personnage. Son esprit rationaliste ne peut se satisfaire des élucubrations malsaines d'un illuminé, d'un charlatan qui livrerait bien à la Gestapo. Avec le recul, je prends conscience de l'aspect maléfique de l'influence d'Honorius. L'emprise qu'il exerce sur Rudolf Hess, qui m'est, depuis que je le connais, toujours apparu comme un illuminé, est à la fois fascinante et inquiétante. Or, selon Reinhardt, qui ne croit pas ses oreilles, Honorius avait prédit que s'il était nommé à Prague, Heinrich y trouverait la mort. J'ai pris l'annonce en pleine figure, poursuit mon ami, mais ce qui m'a le plus intrigué, et dans une certaine mesure révolté, c'est qu'Hitler ait pris la chose au sérieux et a marmonné quelque chose comme « il ne faut pas prendre à la légère les avertissements des puissances occultes ». Par bonheur pour moi, le Reichsführer Himmler est alors intervenu pour rappeler au Führer que ce même Honorius avait prédit l'incendie du Reichstag et que cette révélation avait placé le gouvernement en situation difficile en ce qu'elle accréditait la fable d'une manipulation du pouvoir. Et alors? Alors rien, comme toujours, lorsque l'on ne veut pas d'un homme de caractère et de conviction, efficace et déterminé, on se contente d'un aimable inutile et dans ce registre, les diplomates n'ont pas leur pareil. Le vieux von Neurath a beau avoir adhéré au parti, il reste un homme de l'ancien régime. Ah bon? Il est membre du parti? Et depuis quand? Je m'étonnais de l'embrigadement idéologique de ce diplomate de carrière. Il y a un an. Tu vois, c'est tout frais. Donc, en dépit ou à cause de sa conversion tardive, Hitler lui a donné un hochet. La bohème aura vie. Il n'y fera rien, mais fais-moi confiance, il le fera sous mon contrôle. C'est vrai qu'entre le vieil homme policé qui fréquente les cercles feutrés du pouvoir depuis plus de 30 ans et mon ami, jeune parvenu, puissant et volontaire, le contraste est flagrant. En mon fort intérieur, je n'y suis cependant pas loin d'approuver le choix d'Hitler, car gouverner, c'est faire des compromis, et Reinhardt, qui ne brille pas par sa flexibilité, ne me semble pas le mieux indiqué pour tenir ce rôle, du moins, pas tout de suite. De fil en aiguille, la conversation nous conduit sur une question que je crois innocente, mais que Reinhardt relève avec vivacité. Il s'agit du bureau que j'ai ouvert à Prague et que je lui présente à la fois comme une opportunité intéressante et comme la justification de mes fréquents déplacements de ceux qui étaient encore la capitale tchécoslovaque. Il considère effectivement que le coup est bien joué et il me fait alors cette confidence incroyable. Tu ne peux pas savoir combien cette mise au point me soulage. Je vais pouvoir clouer le bec à quelques-uns qui ne te veulent pas que du bien et qui te suspectent de suivre un peu trop près les affaires du Reich. Je fis de mon mieux pour feindre une parfaite indifférence. C'est dans l'ordre des choses, après tout. Il est normal qu'un banquier suisse, qui fréquente Reinhard Heinrich et connaît personnellement Hitler, suscite beaucoup d'interrogations. Je crois bien que pareille situation se retrouve dans tous les pays et dans tous les cercles de pouvoir. Je te le confirme. Toutefois, eu égard à notre amitié et à ce que tu as fait non seulement pour moi mais pour le Reich, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour personne. Je vais te dire d'où viennent tes attaques, ces sous-entendus, qui peuvent décider de ton sort sans même que tu en sois conscient. Tu vas me révéler l'identité de mes ennemis? Tout à fait. Le premier, celui dont tu dois le plus possible rester éloigné, c'est Heinrich Himmler. J'ai fait sa connaissance à l'hôpital et j'ai tout de suite senti que le courant ne passait pas entre vous. Tu sais, je vais te confier ceci. Le Reichsführer est un personnage complexe au plein sens du terme. Tu veux dire qu'il est complexé? À un point que nul n'imagine. À vrai dire, je ne pense pas qu'il était prédestiné à occuper ce genre de fonction. Mais les événements, la chance, en ont décidé autrement. Je sais que nombre de ses proches l'ont toujours tenu pour un être borné, quoique méthodique. Les Français diraient un besogneux. Je ne connais pas suffisamment le français pour te dire si le terme convient. Mais Alfred Rosenberg, par exemple, lequel ne manque pas d'intelligence, le juge totalement dénué de scrupules, et c'est aussi l'opinion du haut état-major qui ne lui fait aucune confiance. Bref, sois prudent avec lui et ne l'affronte jamais. Quand il mord, c'est toujours par traîtrise et pour tuer. Je l'interromps. Mais enfin pourquoi? Je l'ai aidé quand il a eu besoin de moi. Et je ne me rappelle pas l'avoir contrarié en quoi que ce fût. Tu vois, Himmler t'aurait pardonné de l'avoir aidé à se débarrasser de Röhm. Et dit cela le plus sérieusement du monde. Mais ce qui le tracasse, c'est la confiance que t'accorde le Führer. Il ne sait pas exactement pourquoi Hitler te tient en si haute estime, et cela l'agace et l'inquiète. Et il n'en faut pas plus pour provoquer son animosité. Je pense même qu'il est jaloux. Je reste de marbre, ni approbation, ni rejet. J'en prends acte sans commentaire. Reinhardt comprend ma réserve et ne s'en offusque pas. La liberté de ton dont il use à mon égard doit être comprise comme la plus belle manifestation d'amitié. La confiance appelle la confiance, et mon ami poursuit. Himmler évacué, Reinhardt en vient à Müller. Cette fois, je le sens totalement de mon côté. Manifestement, le chef de la sécurité du Reich ne porte pas le chef de la Gestapo dans son cœur, ce que confirment les conditions dans lesquelles on le lui a imposé. Müller est l'homme de Himmler. Il bénéficie de sa confiance absolue. Il se méfie de tout le monde et constitue des dossiers sur tous ceux qui croisent le chemin de la police secrète, c'est-à-dire beaucoup de monde. J'ose une remarque. Mais Reinhardt, c'est précisément son métier. Oui, bien sûr, je ne mets aucunement en doute ses compétences ni son efficacité, mais je dois te dire qu'en ce qui te concerne, il fait du zèle. C'est vrai que j'ai eu affaire à ces hommes à plusieurs reprises, mais je suppose qu'il veut faire plaisir à Himmler. Oui, mais il n'y a pas que cela. Tu es suisse, tu es mon ami. Schellenberg les déteste, t'apprécie, et le Führer te protège pour une raison qui ne s'explique pas. Pour un esprit tortueux comme le sien, tu es un mystère, et les énigmes, ils s'en méfient. En apparence, je reste de marbre, mais je sens mon estomac se nouer. Je réalise que la surveillance dont je fus l'objet ne fut pas du seul fait de Reinhardt. Et alors, il trouve que tu me fréquentes un peu trop pour être désintéressé. Mais que me reproche-t-il? Rien de précis. Et tu vois, je ne peux pas te blanchir sans me compromettre, dit-il avec un grand sourire. Le chef de la Gestapo me soupçonne, Himmler me jalouse, tu ne peux pas me disculper, et ça te fait rire. Eh bien, la situation est pour le moins cocasse, dit Reinhardt presque ravi. Müller n'a pas la moindre idée des services que tu nous as rendus. Mais ta médiation doit rester secrète. À ce niveau, je ne peux donc rien dire en ta faveur. Il s'arrêta, me fixant bien droit dans les yeux, toujours avec ce sourire malicieux sur ses fines lèvres. Et comment irais-je lui avouer, à lui, mon subordonné, qu'il se trompe du tout au tout, et qu'en réalité, c'est moi qui te sollicite en faisant appel à tes conseils et à tes services? Tu comprends bien que c'est un neveu que je peux encore moins faire à Himmler, qui est mon supérieur. Je préfère faire croire à Müller que c'est toi qui essaies de me tirer les vers du nez, et laisser Himmler à ses spéculations. Le mystère de ton engagement et le secret de tes missions n'en seront que mieux protégés. Tu me rassures, lui dis-je d'un air maussade qui n'était pas que fin. Gottfried, ce n'est pas tout à fait par hasard que j'ai fait publier ta photo avec Hitler. C'est bon que tes ennemis potentiels sachent que le Führer t'apprécie. Je reste perplexe. Reinhardt reprend. Mais ne t'inquiète pas, car assurément, tu as dans cette maison aussi quelques amis. Ah bon, quand même. Günther, qui sait l'amitié que je te porte, t'aime bien. C'est un homme de confiance sur lequel on peut compter en toutes circonstances. Schellenberg aussi. Pour Günther, j'en conviens. Il m'a déjà donné la preuve de sa loyauté, mais j'essaie d'en savoir plus sur les bonnes dispositions de Walter Schellenberg à mon endroit. Schellenberg? Mais je pensais que tu te méfiais de lui. Pour Reinhardt, qui se croyait jeune en accédant à 33 ans à la direction du contre-espionnage nazi, la venue de ce cadet de 20 et quelques années sonnait comme un avertissement. Ceci pourtant n'aurait eu que peu d'importance si le courant passait entre les deux hommes, ce qui exigerait de la part du subordonné la plus parfaite loyauté. Or, d'après ce que j'avais compris des propos distillés par mon ami, s'il reconnaissait à Schellenberg une vive intelligence et une habileté hors pair, la loyauté du jeune Walter n'était pas la première de ses qualités. Reinhardt ne prend pas de gants pour me dire sa conviction de l'ambition effrénée de Schellenberg, sa rage d'arriver avant même d'être parti, sa soif de pouvoir. J'ai déjà eu quelques occasions de réaliser que je ne pouvais pas me fier à lui de manière absolue. Plus grave encore apparaît l'accusation du double jeu de Schellenberg qui l'illustre d'une petite anecdote convaincante. C'est le pasteur Bonhoeffer qui, à ma grande surprise, se trouve placé au centre d'une machination où Reinhardt joue le rôle de l'arroseur arrosé. L'histoire vaut d'être contée. Dietrich Bonhoeffer s'est délibérément installé dans le rôle du premier opposant à Adolf Hitler. Avec un courage qui stupéfie et irrite ses adversaires, et tant ce chancelier, ses ministres, démonte les slogans du nazisme, le racisme, la judéophobie, l'eugénisme et en appelle à la conscience du peuple chrétien. Comme c'est son rôle, Reinhardt s'applique d'abord à raisonner le fougueux pasteur, puis à contrarier ses efforts, et enfin, il tente de le neutraliser. C'est ainsi qu'il décide un beau jour de mettre la main au collège de Bonhoeffer et de l'expédier à Dachau, où il pourra, pense-t-on dans l'appareil nazi, évangéliser les communistes et les juifs qui ont tous le plus grand besoin de retrouver les voies de la rédemption. C'est Schellenberg qui reçoit l'ordre formel de procéder à l'arrestation puis à la déportation. Heydrich le convoque dans ce but, lui expose la manœuvre et appelle Himmler le soir même pour lui rendre compte un peu prématurément de la neutralisation du troublion. Mal lui en prend. Dans la nuit, le Reichsführer rappelle son subordonné et d'un ton glacial lui apprend que l'opération a piteusement échoué. Pire que tout, lorsque les gestapistes se sont présentés au domicile du pasteur, à Finkelwald, ils ont été courtoisement reçus par un Dietrich Bonhoeffer qui manifestement les attendait. Avec un grand sourire, à la rituelle question quant à son identité, il leur a tranquillement répondu en exhibant une carte toute neuve de l'Abwehr signée par l'amiral Canaris en personne. Combien en a-t-il signé de sa main ? Probablement aucune autre, ce qui ajoute à la fureur contenue de mon ami. C'est l'affront. Bien au-delà de la rivalité des chefs, c'est une défaite pour le SD dans le duel à fleur et moucheté qui l'oppose en permanence à l'Abwehr et à la hiérarchie militaire prussienne. Reinhardt pleure le coup tordu. Il convoque Schellenberg et exige qu'il lui produise sur le champ les explications qu'il peut avancer à l'inexécution de ses ordres. Le jeune homme, il n'a même pas atteint la trentaine, lui jure la main sur le cœur, n'y être pour rien, avec un aplomb qui en est pas très plus d'un. Mais le chef du SD ne se laisse pas impressionner. Il a entre les mains une fiche d'écoute. Une fiche d'écoute ? L'interrompage alors ? Qu'est-ce que c'est ? Un simple relevé des communications téléphoniques qui s'échangent entre mon état-major et l'extérieur. Et ainsi, j'ai trouvé la trace d'un appel depuis mon propre bureau vers le commandement de l'Abwehr, la veille de l'intervention chez Bonhoeffer. Étant donné que ce n'est pas moi qui ai passé ce coup de fil, ce ne pouvait être que mon secrétaire. Or, il se trouve que Günther, que tu connais bien, était absent ce fameux jour. Il faut donc que l'auteur du coup de fil soit assez audacieux pour entrer dans mon bureau et prendre le risque d'être surpris, ce qui peut mettre en cause une bonne demi-douzaine de tes collaborateurs. Reinhardt sourit. Mais je lui fais part de mes stupéfactions. Il faut vraiment au coupable un culot extraordinaire pour faire une chose pareille. Ou bien qu'il s'agisse d'un esprit manipulateur hautement raffiné. Que veux-tu dire ? Eh bien, quelqu'un qui s'était dit que personne n'oserait analyser l'historique de mes propres communications. Donc vraiment un esprit supérieur. Cela réduit quelque peu le cercle des suspects. Tu ferais un bon enquêteur, mon frère. Mais je te pose la question. Que penserais-tu de quelqu'un qui aurait été vu dans mon bureau en train de téléphoner ? Qu'il est fort probablement ton homme. Eh bien, c'est ce que je pense également. Imagine que cette personne, je la connais. C'est Schellenberg, et la main dans le sac. Par qui ? Par Klaus Barbie. Barbie ? Tu veux parler de ce Barbie qui est venu me chercher à la gare ? Je n'en ai pas d'autre. Ce jeune homme a intégré la SS, voici 3 ans, et a été aussitôt admis dans l'école de Bernau. Il vient d'en sortir pour suivre des cours d'officier à Charlottenburg. Or, il est actuellement en mission dans mon état-major. Il a réellement vu Schellenberg dans ton bureau ? Comme je te le dis, c'est le coup classique. Il passait dans le couloir, a vu la porte de mon bureau entrouverte et a parfaitement distingué Schellenberg de dos, le téléphone à la main. Il ne s'est évidemment pas manifesté, mais dès que la nouvelle de notre échec a été connue, il est venu discrètement me prévenir. Tu le crois fiable ? Quel serait son intérêt de me mentir ? Il vient d'arriver et doit plutôt se tenir à carreau et éviter de se faire des ennemis. Je mesure qu'il prend des risques en me confiant ce qui aurait pu rester un secret. Il aurait aussi pu faire chanter Schellenberg. Reinhardt se rédit. Nous ne mangeons pas de ce pain. Je préfère te rappeler, ce que tu sais depuis longtemps, la SS se vit comme une fraternité, une communion d'idéal et une fidélité absolue envers notre Führer. Klaus Barbie appartient à cette jeune génération qui n'a pas fait la guerre, mais qui a vécu l'humiliation d'une fausse défaite et d'une vraie trahison. Pour eux, la loyauté, c'est sacré. Pardonne-moi, Reinhardt, mais ce que ce Barbie a vu de ses yeux et t'a fidèlement rapporté n'est pas exactement l'idéal de loyauté que tu viens d'évoquer. Effectivement. Il se trouve inévitablement parmi nous des éléments qui agissent à leur propre guise, et je crains fort que Schellenberg ne soit de cela. Son ambition me paraît démesurée et pour tout dire, dangereuse. C'est pourquoi je suis reconnaissant à Barbie et à Müller de m'avoir averti de ce coup de fil. Müller, encore lui ? Mais que vient-il faire là-dedans ? C'est à lui que Barbie a demandé conseil après avoir vu Schellenberg dans mon bureau. En bon policier qu'il est, Müller n'a pas hésité. Il a spontanément orienté son jeune collègue sur la seule voie envisageable, celle de la loyauté à mon égard. Mais alors, finalement, comment s'est conclue cette histoire ? Je n'ai pas voulu aller trop loin, car je sais Schellenberg suffisamment roué pour me desservir auprès de Himmler ou de Hess. D'autre part, il subsiste une faible marge d'incertitude, sait-on jamais. C'est peut-être un coup monté. Müller peut vouloir nuire à Schellenberg. Quoi qu'il en soit, ce dernier m'a juré ses grands yeux qu'il n'y était pour rien et qu'il n'avait prévenu personne. J'ai fait semblant de le croire. J'ai besoin de lui. C'est un homme d'une intelligence prodigieuse, et comme tu as pu le constater à mes propres dépens, il ne manque pas d'audace. Reinhard sait décidément faire la part des choses. Et donc, cet homme dont tu te méfies, enfin, en qui tu n'as pas une confiance absolue, serait mon ami. Et oui, la vie est ainsi faite. Il faut rendre à César ce qui est à César, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis Schellenberg a prévenu Canaris, pour protéger ton pasteur Bonhoeffer, ce que tu devrais apprécier. Puis, il continua avec un air entendu. Bien sûr, ce ne sera pas un ami désintéressé, mais il est bien disposé à ton égard. Tu es le seul ami désintéressé que j'ai, dis-je dans un large sourire. Reinhard leva les yeux au ciel et reprit. Sérieusement, je le soupçonne d'en savoir un peu plus que Müller sur l'aide précieuse que tu nous as apportée, mais aussi sur la confiance dont tu jouis auprès de Hitler lui-même. Schellenberg est suffisamment fin pour apprécier la qualité et la discrétion de tes services. Donc, crois-moi, tu es le type de personnage qui lui plaît et tu pourras compter sur lui, surtout s'il y trouve un intérêt. Autant le savoir si jamais tu en as besoin. Je ne pense pas me trouver un jour dans une pareille situation. Tu l'ignores, mon cher. Moi qui suis ton ami, je te donne ces conseils qui, un jour, comme tu dis, pourraient bien t'aider. Müller, je t'encourage à te méfier de lui, car je sais qu'il ne t'aime pas. En cas de nécessité, joue la carte Schellenberg. C'est un coquin sympathique, mais un fin manœuvrier. Il apprécie ta finesse et il t'aidera. Reinhard m'aura donné, en ces quelques minutes, autant de gages de son amitié qu'au cours de toutes les années précédentes. La confiance ne se mesure pas, je le savais déjà, et je le réalise mieux encore, mais qu'il ose me confier sa profonde défiance envers son supérieur hiérarchique et me faire part de ses réserves sur ses collaborateurs immédiats, je n'en reviens pas. Pourtant, il me s'est proche d'Hitler et par conséquent de Bormann. Voici un cadeau, comme je n'en ai pas reçu depuis longtemps. J'en éprouve même quelques hontes et de vrais remords, en songeant que quant à moi, je n'ai pas observé la même loyauté. Comme les Suisses ne peuvent vivre longtemps, ni bien, avec une mauvaise conscience, je me persuade que la cause que je sers n'est pas comparable à celle si détestable que s'est choisie mon ami. La roue de l'histoire, bloquée sur son axe pendant les 8 longs mois de la drôle de guerre entre l'Allemagne et la France, se remet à tourner, puis s'emballe quand Hitler, qui a remis 49 fois l'ordre d'assaut, se décide pour la 50e tentative, et que, servi par la chance autant que par l'intempérie du grand quartier général français, les divisions blindées de Guderian enfoncent le front. Le général Gamelin, qui ne fut toute sa vie que l'ombre de Foch et rien d'autre, a oublié quelques préceptes élémentaires. D'abord, qu'Hitler cessait une spécialité d'attaquer les pays neutres, Norvège, Pays-Bas et Belgique, et qu'il se soucie, comme d'une ligne, des usages internationaux. Ensuite, que les Alliés ont gagné la dernière guerre grâce à l'arme blindée et qu'il eût été pour le moins prudent de suivre en ce sens les conseils du colonel de Gaulle. Ensuite, que les stratèges français victorieux de la Grande Guerre prennent soin d'installer une deuxième ligne de défense afin de ne pas encourir le risque de débordement ou de la rupture du front. Enfin, on pourrait rajouter l'usage du téléphone, la mise en œuvre de l'aviation et surtout l'opportunité de foncer sur l'Allemagne quand la Wehrmacht est occupée en Pologne. Toutes ces observations, ce sont celles que me livre Roger Masson au cours de ces longs mois où nous attendons le monstrueux affrontement des deux plus grosses armées du monde puis assistons à l'effondrement imprévu de l'une d'elles. Je le rencontre régulièrement alors que la frontière avec l'Allemagne fait l'objet d'une surveillance accrue. Monica, parfois, participe à nos entretiens. Chacun dans la diversité de son passé et de ses opinions a son champion. La France pour Monica, l'Allemagne pour moi. Roger Masson se calant quant à lui dans un rôle taillé sur mesure, celui de défenseur intransigeant de la neutralité helvétique. Pourtant, quand les chars allemands déboulent à toute allure vers Paris, puis vers Lyon et Bordeaux, je suis aussi affecté que mon ami. Le spectacle des réfugiés errant sur les routes caniculaires de la douce France me serre le cœur et les hurlements des Stuka piquant sur ses cibles désemparées me paraissent détestables. Faute de communiquer avec lui, je n'imagine pas Reinhard approuver ce déchaînement de violence. J'imagine qu'il préfère ses compatriotes dans le rôle de ces adolescents en uniforme qui déambulent tranquillement dans les rues désertées des grandes villes françaises, s'y font photographier et s'excusent poliment d'encombrer les trottoirs. La paix est tombée brutalement sur la France et j'ai recommencé à la visiter, d'autant plus régulièrement que le passage vers l'Allemagne est devenu plus difficile. L'effondrement de l'armée française a plongé tout le pays dans l'abattement et le désarroi. Mon champ d'action se réduit à la zone libre où s'exerce encore un semblant d'activité du gouvernement de Vichy. Cette autorité, le maréchal Pétain et Pierre Laval l'inscrivent dans le fil de la politique allemande. Les préfets, auxquels sont donnés des pouvoirs qu'ils n'avaient plus connus depuis le Second Empire, peuvent poursuivre, arrêter, emprisonner, interner dans les camps, et nombre d'entre eux ne s'en privent pas. Ceux qui veulent complaire à leur nouveau maître ciblent les juifs étrangers, vérifient les interdictions faites aux juifs français de rester élus ou fonctionnaires, recensent les francs-maçons et les expulsent de la magistrature et de l'armée. La France devient un terrain de chasse où les proscrits, républicains espagnols, réfugiés allemands anti-nazis ou italiens antifascistes, sont devenus autant de gibier de choix. Les Français, à de rares exceptions près, ne se révoltent pas. La majorité accepte ces dérives et il y en a même qui les approuvent. Parmi ces derniers, il y a précisément ceux que l'on ne devrait pas trouver, les communistes et les anciens combattants. J'ai du mal à comprendre ce comportement et je m'en ouvre à Monica, qui m'explique que ce sont précisément les ennemis de la République et des radicaux qui exultent de la mort de la gueuse, de la démocratie des instituteurs et des professeurs. Longtemps et mal contenue, leur haine est enfin comprise et encouragée par ces deux hommes, Pétain et Laval, qui croient avoir une revanche à prendre alors que la Troisième République leur avait tout donné. Le vieux maréchal, couvert d'honneur et de décoration, l'Auvergnat Noirot, plusieurs fois ministre, ayant même été président du Conseil. L'appétit vient en mangeant, et celui du pouvoir n'est pas des moins gargantuesques. Monica, de par ses origines et par ses convictions, appartient à la famille radicale, celle d'Herriot et de Daladier. Elle a été élevée au clémentisme, cette philosophie politique, à la fois détachée et perspicace, qui est devenue une véritable école de pensée. Je n'ai rien contre, même si je me situe plutôt dans la famille conservatrice, attachée à la consolidation des valeurs sur laquelle la société suisse prospère sans heurts ni provocations. Je ne suis donc pas surpris qu'elle me demande un jour d'intervenir en un domaine qui ne m'est pas familier et dans un pays qui n'est pas le mien. Cela arrive peu de temps après l'arrestation de Georges Mandel, Léon Blum, Édouard Daladier et Édouard Henriot et leur incarcération au château de Chazon. Jugé responsable de la défaite, qu'on ne songe pas un instant à imputer au maréchal Pétain, qui fut inspecteur général des forces armées, ni à Pierre Laval, qui n'engagea pas lorsqu'il siégeait à Matignon, le réarmement de la France. Manifestement, des boucs émissaires doivent être désignés pour laver les insuffisances des autres. Elle ajoute pour finir, avec un doux sourire, qu'elle n'avait pas oublié ma rencontre avec Joseph Darmand et qu'il pense qu'il pourrait m'être de quelques secours. Mais enfin, pourquoi faire, Monica? Pour rencontrer les prisonniers de Chazon. Je suis stupéfait, mais elle n'a pas tort. L'entreprise n'est pas des plus faciles et j'aurais certainement besoin de complicité. Mais comment trouver le bon intermédiaire? Même si le maréchal a annoncé qu'il entrait sur la voie de la collaboration avec l'Allemagne, celle-ci ne s'organise que de façon chaotique. On vante toujours en France la cohérence germanique, mais celle-ci n'est pas très perceptible sur le terrain et encore moins à Vichy. L'envoyé personnel d'Hitler en France, Otto Abetz, et à couteau tiré avec le commandement de la Wehrmacht et la nomination à Paris du général von Stuppnagel n'a pas arrangé les choses. Chacun recrute ses agents dans le vivier grouillant des patriotes, le plus souvent égarés, des factieux convaincus ou des arrivistes sans scrupules. Même pour un Français, il est difficile de s'y retrouver entre un colonel François Delaroque qui entend poursuivre le combat contre l'occupant, un Marcel de La, plus nazi que nature, et un Joseph Darnand qui ne comprend pas pourquoi Hitler ménage encore Staline. Qu'irais-je faire dans un pareil Marigot, apporter des mâchoires d'un Déa, d'un Laval ou d'un Doriot? Et pourquoi? Je m'en inquiète à haute voix, et Monica me répond que la libération de Daladier et de Blum serait en préparation, qu'il y manque quelques informations et qu'une mission de reconnaissance avec repérage des lieux faciliterait grandement l'entreprise. En clair, tu souhaites que je me rende au château de Chazon, mais sous quel prétexte et avec quel sauf-conduit? Je crois qu'il faudrait trouver une personnalité suffisamment intelligente et influente pour comprendre que Daladier et Blum sont plus dangereux à l'intérieur du pays qu'en exil. Et puis, il faudrait aller expliquer aux captifs que nous allons les faire libérer et qu'ils doivent y consentir. C'est un peu plus que du repérage tout de même. Monica se tait, je ne laisse pas la gêne s'installer. C'est fort bien raisonné, très cher, mais je doute de trouver un tel esprit, Laval peut-être. Je pensais précisément à lui, et je crois aussi que Darnand peut t'aider à l'approcher. Peux-tu au moins essayer? Et qu'en pense votre ami le colonel? Masson restera neutre dans cette affaire, il ne s'engagera pas dans une opération de ce genre. Après tout, les intérêts vitaux suisses ne sont pas en jeu. Écoute, je vais y réfléchir. Eh bien fais vite, je te prie, car le temps presse. Je pense que le maître espion saura quand même me conseiller utilement sur l'attitude à adopter. Monica avait raison. Masson, que j'ai consulté, me laisse effectivement libre de ma décision. Il a toutefois attiré mon attention sur quelques éléments à prendre en considération. Il m'a expliqué que vérifier les conditions de détention des illustres détenus n'était pas une mauvaise idée en soi. Quant au reste de l'opération, il m'a semblé plus que réservé sur ses chances de réussite. Il s'agissait d'une entreprise hasardeuse dans laquelle il ne voulait aucunement être mêlé. Je compris que pour rien au monde, il ne voulait risquer de compromettre le service suisse dans une opération qui pourrait être interprétée comme un casus belli par Vichy, ou même pire, comme une provocation délibérée par les Allemands. Mon mentor est donc prudemment retranché derrière sa sacro-sainte neutralité helvétique. Participer à cette aventure, après les réserves de Masson, était un choix délicat. Pourtant, Monica n'a pas hésité à donner de sa personne pour me faire rencontrer Canaris. Je décidai donc que je lui devais bien une tentative de reconnaissance sur le terrain. Quand je lui fais part de ma décision, Monica, qui ne cachait pas sa joie, me gratifia d'un « Merci Gottfried, merci, je savais que je pouvais compter sur toi ». Cela, il me semble l'avoir déjà entendu quelque part. Aussitôt, je mets en œuvre mon plan de bataille. Toutes les opportunités me sont offertes pour rencontrer Joseph Darmand, étant donné que je suis son banquier. Peut-être sera-t-il en mesure de me faire rencontrer Pierre Laval. Au pire, il saura me conseiller. C'est à ce chemin que je m'arrête, et comme le temps presse, j'écris aussitôt à mon client. Quelques jours plus tard, bien plus rapidement que je ne l'avais prévu, la réponse me parvient sous forme d'un télégramme qui m'avise de la prochaine venue en Suisse de l'ancien premier soldat de France, ainsi que le consacre la presse fichiste. Les PTT français ne fonctionnent pas aussi bien, il s'en fout de peu, quelques heures, que mon héroïque client m'arrive dans ma banque, avant qu'on signe un message, j'arrive, que le télégraphiste vient me remettre en main propre. Je donne sur le champ des ordres pour que mon visiteur soit conduit jusqu'à mon bureau dès son arrivée, et sur ce point, la diligence suisse s'avère impeccable. J'ai évidemment prévu de le retenir à dîner et lui réserver une chambre dans un des meilleurs hôtels de la ville. D'emblée, nos retrouvailles sont chaleureuses. Ils se sont flattés de mes attentions, moi, en ce que j'admire dans cet homme trapu à la physionomie énergique, ce dont je serais parfaitement incapable, le mépris absolu du danger. Pour justifier ma proposition de rendez-vous, je lui ai arrangé un substantiel profit sur son modeste placement et je prends une ligne de circonstances faussement modeste pour lui demander si, nonobstant les événements, il entend conserver ce dépôt dans mes écritures ou au contraire les rapatrier en France. Embarbouné et ravi de l'aubaine, il me remercie et me félicite pour mes placements judicieux. L'affaire semble bien engagée. C'est alors qu'à l'instar de tous les maquignons du monde, j'introduis ma demande relative au prisonnier de Chazeron en sollicitant son entremise pour exposer à Pierre Laval une proposition émanant d'un lobby d'autant plus mystérieux qu'inexistant. Avant de me répondre, mon interlocuteur, pas si bête, me fait comprendre qu'il aimerait savoir où il va mettre les pieds. « Ne pouvez-vous m'en dire un peu plus long, cher baron? Il faut en effet que vous sachiez que Pierre Laval n'est plus en odeur de sainteté auprès du maréchal. » J'essaie de biaiser. « Mais pourquoi donc ? C'est pourtant lui qui l'a fait roi en arrachant une à une les voix qui lui étaient nécessaires au grand casino de Vichy en juillet. Sans doute, mais notre maréchal est comme tous les grands hommes, chatouilleux quant à ses prérogatives, et il a eu très vite l'impression que le petit Bougnat le considérait comme une marionnette, sa marionnette. Dès lors, la méfiance s'est installée, et comme le pouvoir ne se partage pas, je suis sûr qu'il va s'en séparer. Vous me dites donc que Laval est le mauvais cheval, mais alors, qui pourrait répondre à ma demande ? Si vous me disiez ce que vous souhaitez obtenir, je pourrais peut-être vous aider à trouver la bonne personne. Il va me falloir lui faire confiance. J'explique donc à Joseph Darman, très attentif, que la captivité et la mise en jugement de Daladier, de Blum, de Mandel et Guerriot sont des mesures maladroites que Vichy va créer de toutes pièces de martyr et que forcément le lien sera fait avec l'occupation allemande. Lisant dans ses yeux, qu'il ne m'est pas forcément hostile, je poursuis en lui suggérant une manière élégante de se débarrasser de ses politiques dépassées et dévaluées. S'ils avaient la bonne idée de rejoindre le général de Gaulle à Londres, ils l'affaibliraient et offriraient une rude compétition pour le pouvoir entre ses revenants d'un régime abattu et un faux jeune militaire qui n'a jamais rien prouvé. À ces dernières paroles, je le vois hocher la tête, puis, comme saisi par une illumination, s'écrier. Mais c'est tout à fait vrai, ce que vous me dites là. C'est une sacrément bonne idée. Ne croyez-vous pas que je puisse la proposer, vous-même? Eh bien oui, moi-même, mais rassurez-vous, je saurais vous remercier. Il n'est pas question de cela. Je suis bien entendu enchanté que vous preniez la chose à votre compte. Ce serait vraiment excellent, inspiré même. Je m'arrête, fais semblant de réfléchir et objecte, comme pour moi-même. Mais il y a quand même un risque. Lequel ? Demande Dardan, subitement inquiet de voir la bonne idée lui échapper. Eh bien, le risque est gros que, sachant la proposition venue de Cagoulard, nos hommes ne la rejettent et refusent la liberté qu'on leur offre. Par ailleurs, même s'il acceptait une grâce du maréchal, cela ne servirait pas nos intérêts. Et pourquoi ? S'inquiéta Darnan. Eh bien, une mesure de clémence à leur endroit les compromettrait davantage qu'ils ne les avantageraient et seraient suspectés de connivence avec Vichy. C'est vrai, mais alors comment procéder ? Vous devez bien avoir une idée. Je souris. Merci de votre confiance, mon cher. Je ne vois qu'une solution. Laquelle ? Il faut organiser leur évasion. Une fausse évasion, bien sûr. Et sur ce point, il n'y a pas de meilleur expert que vous. Bravo. Comment allez-vous faire ? Nous allons procéder par étapes. Pouvez-vous me faire rencontrer le maréchal ? La chose devrait pouvoir se faire. Alors, affaire conclue. Nous passâmes le reste de la soirée à fixer les détails de mon prochain voyage à Vichy.